En préparant cette célébration, en méditant les textes, j'ai pensé en effet à ce qui était le plan de Dieu à l'origine. Et me sont immédiatement revenus à l'esprit ces versets par lesquels nous savons, de façon évidemment, ça reste très suggestif, mais justement, ce n'en est peut-être que plus évocateur, ce qui se passait à l'origine dans ce jardin d'Éden. Puisque l'écrivain sacré, l'auteur de ces lignes de la Genèse, n'hésite pas à nous décrire le Seigneur Dieu comme venant à la brise du soir pour comme manifester la familiarité qu'il a avec l'homme et la femme qu'il vient de créer. Vous savez, c'est, voilà, c'est après, la façon dont l'auteur nous décrit ce qui se passe après le drame du premier péché. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Donc, dès le départ, nous le voyons donc, mystérieusement, mais cette voix du Seigneur que Adam et Ève peuvent entendre. Au commencement était la parole. Mais oui, bien sûr. Une parole qui est invitation à, qui attend une réponse. Une parole qui est à l'origine d'un dialogue. Alors, dès le départ, il y a donc cette intimité entre Dieu et l'homme et la femme qu'il a créé. Et cette intimité, le péché va la briser. Alors, pourquoi est-il important de prendre conscience de cela? C'est parce que lorsque nous évoquons ce drame originel, cette perte de l'amitié de Dieu, immédiatement il nous faut mettre comme en regard l'œuvre de Jésus qui vient précisément restaurer cette amitié et même au-delà, plus qu'ami, vous l'avez entendu la deuxième lecture, bien-aimé, vous voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, pas simplement un nom, un petit peu comme une étiquette qu'on nous mettrait comme ça, un petit peu, on n'est pas trop sûr du contenu. Non, c'est la réalité de ce que nous sommes. Alors, je crois que c'est de cela qu'il nous faut être convaincus, parce que c'est de cela, au départ, qu'ont été convaincus tous les saints. Qu'est-ce qu'il y a au départ de leur itinéraire spirituel qui se termine par la gloire du ciel, la gloire du paradis. Cette prise de conscience qu'ils sont aimés de Dieu et d'un amour qui n'a pas de qualificatif. Cet amour qui a conduit le Seigneur lui-même à laisser son fils être torturé, être compté au nombre des pires criminels, mourir sur une croix. Quel abîme d'amour. Alors c'est au départ, ils sont tellement divers les saints, oui, sûrement. Mais ce qui les réunit, c'est cette conscience que l'amour de Dieu les a saisis, comme il a saisi saint Paul. L'amour de Dieu l'a saisi, l'amour de Dieu a saisi tous les saints. Oui. Alors pourquoi est-ce si important? Bien sûr, c'est parce que cet amour qui a transformé la vie des saints, c'est aussi l'amour dont chacun d'entre nous est entouré. Ah, ben oui, mais c'est les saints avec moi, c'est... Ben non, c'est pas pareil, moi je suis quand même pas comme... Pas... Si, c'est pareil. Voilà. Enfin, l'acte par lequel Dieu me donne d'exister, c'est un acte d'amour. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre le fait de donner l'être, faire venir à l'existence, et manifester un amour qui est proprement divin. Et il n'y a qu'une façon dont Dieu peut aimer. Terrible, cette façon dont nous, bien sûr, nous pouvons projeter en Dieu voilà, notre propre façon de, voilà, d'exister, nous, notre propre façon d'aimer. Nous, on le mesure, notre amour. On va aimer plus ou moins, et puis ça peut varier. Voilà. Alors, lui, je l'aimais bien, mais après ce qu'il m'a fait, je l'aime moins. Impossible, ce genre de changement en Dieu. Dieu, il pourrait avoir comme ça des sautes d'humeur. Dire, quand même, après ce que tu as fait, bon non. Impossible en Dieu. Pas de changement en Dieu. Quand on dit que Dieu est amour, point final. Et pas un amour variable. Non. Ça, ce sont nos sentiments humains qui peuvent changer. Voilà, demandons au Seigneur de nous préserver là, de ça, cet anthropomorphisme que nous projetons en Dieu et qui fausse la relation que nous devons avoir avec lui, qui la fausse complètement. Oui. Et ça, conséquence du péché originel. On aurait pu poursuivre le récit, vous savez comment ça continue. Justement, donc, cette voix de Dieu après le péché. Mais Adam, où es-tu? Il se cache. J'ai peur. Comment avoir peur de celui qui ne cesse de nous aimer? C'est terrible, cette conséquence du péché. Adam et Ève qui ont perdu cette conscience que Dieu ne cesse de les aimer. Alors c'est ce mystère qui est à l'origine de toute forme de sainteté. Les saints ont pris conscience de cet amour de Dieu avec leurs limites. Bon. J'espère que vous êtes sinon il faut le devenir un peu familier avec les saints précisément. Est-ce que vous lisez la vie des saints? Et bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma petite enfance, mais quand même, parmi les souvenirs qui me restent, de me plonger dans ces albums, vous les connaissez peut-être parce que ça a vieilli, mais en même temps, belles histoires et belles vies. Ça vous dit rien, c'est bien. Allez voir ça, on les réédite même en couleur, et faites lire cela à vos enfants, puis vous verrez, puis même vous les lirez vous-même. On a besoin, parce que ce sont des exemples qui sont tellement communicatifs. Nous allons découvrir que les saints, ils nous ressemblent. Ils ont leurs difficultés, leurs meurtrissures, leurs blessures. Il peut y avoir parfois qui sont vraiment très, très cabossés, comme on dit. Ils ne sont pas apitoyés sur leur sort. Surtout un petit peu, souvent, c'est une époque où ça ne se faisait pas trop. Non. Confiance. Cet amour de Dieu qui serait capable de les transformer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, dès lors, c'est ce qui permettait chez les saints toutes les audaces. Diversité des saints, là aussi, là, c'est important de la méditer parce que, voilà, cette diversité, elle sera au paradis une des causes de notre bonheur. Bon, bien sûr, le bonheur essentiel sera de voir Dieu. Ensuite, cette myriade qu'évoquait la première lecture, ces saints. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça peut nous aider à prendre le contre-pied d'une attitude qui est tellement préjudiciable. La tentation de l'envie, de la jalousie. Tel ou tel, voilà, comment ça se fait là que cela, il arrive à faire ça, moi j'y arrive pas. Mais il a ceci, moi je ne l'ai pas. Voilà. Alors c'est tout le contraire. Au paradis, nous allons nous réjouir du bien, nous ne cesserons pas de nous réjouir du bien que nous verrons dans tous les autres saints. Alors commençons dès maintenant. Commençons dès maintenant. Réjouissez-vous du bien que vous voyez chez les autres. Mais voilà. Je délimite des infirmités, voilà, ceci, bon. Un tel qu'il fait, il le fait tellement mieux que moi, et puis voilà, bon. Comment se fait-il que, bon, voilà, moi j'ai ce handicap de. Voilà, bon, alors que tel autre, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Voilà, ce sont des dons de Dieu qui sont divers et dont il faut nous réjouir. Alors, parce que, au final, c'est voilà. Dans cette diversité, c'est le même amour de Dieu, voilà, qui va se manifester de façon différente. Alors, justement, là, parmi ces lectures, on aurait pu aussi, j'ai pensé aussi à en évoquant là, ce monde des saints, et ce passage de l'Épître aux Hébreux. Allez voir le début du chapitre 12, notre auteur de l'Épître aux Hébreux, il décrit notre situation qui est la nôtre, un petit peu comme si nous étions dans un stade. Voyez, parce que de fait, même à l'époque, vous le savez, on aimait le sport. Et il y avait des supporters, bien sûr, il y a 2000 ans, comme il y en a dans toutes les manifestations sportives. Alors, voilà. Il faut considérer, nous dit l'auteur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, considérer les saints comme des supporters. Ça y est, nous, on est encore dans l'arène, il faut combattre, ou plutôt, comme le dit, donc courir avec endurance. Ce sont les termes mêmes de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Voilà, il va falloir courir, faire un effort, être endurant. On n'est pas seul, on n'est pas seul. Nous avons une foule immense de témoins. Alors, pour conclure, mais je le ferai avec des mots d'un grand auteur spirituel du XIXe siècle, Mgr Charles Guay, évêque auxiliaire de Mgr Pie, l'évêque de Poitiers. L'amour des saints peut ce qu'il veut. Leur cœur abondent. Leur main est riche en proportion. Et sans cela, comment seraient-ils bienheureux? Ils puisent en Dieu, pour nous, ce que Dieu leur fait voir qu'il veut verser sur nous. Elle est un peu longue la phrase, vous voyez. Ce que Dieu veut verser sur nous sera par le canal des saints. Ils prient parce qu'il nous aime, il prie en nous aimant. Il prie comme on respire, simplement, nécessairement, incessamment. Tous les saints nous aiment, tous nous veulent du bien, tous nous en font, dans une mesure qu'il ne tient qu'à nous d'élargir sans cesse. On ne se tient pas à l'écart au royaume de l'amour, jamais on ne s'y récuse. Au royaume de l'amour, c'est le Sacré-Cœur de Jésus qui, à tous, donne l'impulsion. Tous les cœurs y battent, comme le sien, avec le sien et vraiment dans le sien. Ce cœur divin est l'unité, la vie et l'ardeur des cœurs des saints. Jésus vous aime, donc, tous les habitants du ciel vous aiment. Non seulement les saints canonisés, mais tous les saints. Non seulement ceux dont vous connaissez la vie ou le nom, mais ceux-là même dont vous ne soupçonnez pas l'existence. C'est bien assez pour cela qu'ils vous connaissent et surtout qu'ils connaissent Jésus. Alors, frères et sœurs, cet amour dont les saints ont vécu, cet amour dont nous devons vivre à notre tour, cet amour n'ajoute pas à l'amour de Jésus pour nous, mais il en est le chemin. Prier les saints, c'est nous mettre sur leur chemin, lequel alors devient le nôtre. C'est recevoir les grâces qu'ils ont reçues, chacun selon son histoire propre, son tempérament et ses dons.